Chapitre 5. Départ. Il ne faut pas dédaigner ceux dont le plus grand talent se révèle dans la manipulation des songes et se rencontre le plus souvent chez les solitaires. Ces artiseurs, s'ils n'ont pas la puissance d'un clan, peuvent pourtant servir leur monarque de façon à la fois subtile et efficace. Imposer des rêves de sinistre augure à un seigneur ennemi peut l'amener à reconsidérer ses décisions, tandis que des images de victoire et de gloire peuvent fortifier le cœur d'un chef militaire. On peut ainsi récompenser ceux qui le méritent et, dans certains cas, apporter l'apaisement aux victimes du découragement ou de la lassitude. Des usages mineurs de l'art, de bois coudé. Le soir même, j'annonçai à Imbre que l'Est souffrait terriblement de la séparation d'avec sa famille et que je l'avais renvoyé chez lui dans l'espoir qu'il réussirait à se réconcilier avec Burick. Le vieillard hocha la tête d'un air distrait. L'enfant était le cadet de ses soucis. Je lui rapportai aussi ma conversation avec Tram et conclus ainsi. Il sait qui je suis, et ce, depuis son arrivée au château, à mon avis. Imbre réagit plus vivement à cette nouvelle.
« Malédiction! Pourquoi faut-il que ton masque commence à tomber maintenant, alors que j'ai tant à faire ?»«
Je ne crois pas qu'il tombe, » répondis-je avec raideur. « Quelqu'un devait détenir ce renseignement depuis longtemps, et nous faisons aujourd'hui les frais de notre négligence. Que proposez-vous ?»«
Ce que je propose. Que veux-tu que je propose ? » fit-il avec irritation. Tram connaît ton identité. Reste à espérer qu'il est aussi bien disposé à notre égard qu'il le paraît, et que ton secret ne circule pas dans la communauté vifière. »
Il tapa sur la table l'extrémité d'un étui en cuir, pour faire coulisser jusqu'au fond les manuscrits qu'il contenait, puis il entreprit d'en nouer les cordons de fermeture.
« Fragon, dis-tu ? » demanda-t-il au bout d'un moment. « C'est elle qui aurait mis Tram au courant. »
Il m'a semblé qu'il le sous-entendait.
« À quand remonte la dernière fois que tu l'as vu ?»«
À de nombreuses années, à l'époque où j'ai vécu chez les Vifiers. C'était l'épouse de Rolf. »«
Je sais, je n'ai pas encore complètement perdu la tête. »
Il réfléchit en continuant à rouler ses parchemins.
« Nous n'avons pas le temps, » déclara-t-il enfin. « Je t'enverrai volontiers chez cette Fragon pour découvrir combien de personnes elle a mises dans la confidence, mais les heures nous sont comptées. » Aussi, creusons-nous les méninges ensemble, Fitz. Comment se serviront-ils de ce renseignement ?
Je ne suis pas sûr que Tram ait l'intention de s'en servir. À sa façon de me l'annoncer, j'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait m'aider. Je n'ai senti aucune menace, pas même potentielle. On aurait dit au contraire qu'il m'incitait à la franchise, avec l'Est, si je tenais à ouvrir une brèche dans sa carapace. Fit le vieil homme, d'un ton songeur en fermant le dernier étui.
« Passe-moi la tisanière. »
Il remplit sa chope.
« Une véritable énigme, ce Tram, n'est-ce pas ? Il possède des connaissances étendues, et je ne parle pas seulement de ses contes du vif. Je ne le décrirai pas comme instruit. Toutefois, comme il le dit lui-même, chaque fois qu'il pensait avoir besoin d'un certain savoir, il s'est débrouillé pour l'acquérir. »
Le regard d'Imbre prit une expression lointaine. À l'évidence, il avait consacré du temps à évaluer l'importance de l'homme.
L'idée de Civil, quand il l'a évoquée, de fournir à devoir à un clan de vifs pour suppléer à l'absence d'un clan d'art, cette idée ne m'a pas plu. On ne lui a donné aucun écho, et pourtant, elle paraît s'être réalisée. Nous voici avec Civil Brezinga et son Marguet, Niel le Ménestrel et Tram, qui comptent tous nous accompagner en voyage. Je perçois bien, malgré la répugnance du prince à en parler, qu'ils forment une espèce de clan. Je ressens entre eux une intimité exclusive. Tram est le cœur de ce groupe, où il tient davantage le rôle de prêtre que de chef. Il ne commande pas, il conseille, et parle souvent de servir l'esprit du monde, ou le divin, sans se soucier apparemment du ridicule. S'il nourrissait des ambitions, ce serait un homme dangereux. Parce qu'il sait, il pourrait provoquer notre chute à tous. Les rares occasions où il s'est adressé à moi, il s'y est pris de manière très détournée, comme s'il nous poussait à agir, mais sans nous dire ce qu'il attend de nous.
Bien, résumons-nous. J'énumérais les possibilités sur mes doigts. Peut-être Trame désirait-il que je fasse preuve de franchise avec l'Est. Maintenant que le garçon est parti, la question ne se pose plus. Mais peut-être veut-il que je révèle publiquement mon identité, ou bien que les loin-voyants reconnaissent le vif du prince, ou encore que les deux soient annoncés simultanément, ce qui reviendrait à dire que le vif est présent dans le sang loin-voyant. Je m'interrompis soudain. Le vif existait-il vraiment dans le lignage de la famille royale? Le dernier à l'avoir manifesté de manière indubitable était le prince Pi. Or, il n'avait pas laissé de descendance, et la couronne avait coiffé une autre lignée. Dans ces conditions, je tenais peut-être ma magie de ma mère montagnarde, et elle s'était transmise qu'en vérité avait emprunté mon corps pour concevoir le prince. Je n'avais jamais confié ce détail à Ambre, et je ne comptais pas le lui donner un jour. De voir, j'en avais la conviction, avait été engendré par l'esprit de vérité. Néanmoins, je me demandais à présent avec une certaine gêne si, en se servant de moi, mon roi n'avait pas fait cadeau à son fils de ma magie impure.
Fitz ?
Perdu dans mes réflexions, je sursautais en entendant la voix d'Ambre.
Ne t'inquiète pas tant. Si Trame nous voulait du mal, il n'aurait eu aucun intérêt à dévoiler ainsi son jeu. En outre, comme il nous accompagne, nous pourrons garder l'œil sur lui et parler avec lui. Toi, surtout, tu devras le fréquenter le plus possible. Tu n'auras qu'à prétendre souhaiter en apprendre davantage sur le vif pour gagner sa confiance.
Je soupirai discrètement. J'étais là des mensonges et de l'hypocrisie. Je fis part de mon sentiment humble qui eut un grognement indifférent.
Tu n'es qu'hypocrisie par ta naissance même, Fitz, comme moi, comme tous les bâtards. Nous sommes des créatures mensongères, fils, mais non héritiers, royaux, mais non princes. Je croyais que tu l'avais accepté.
Je me bornai à répondre. Je m'efforcerai de mieux lier connaissance avec Trame et de découvrir ses objectifs. Le vieil assassin hocha la tête.
Un navire est le cadre idéal. Bavarder constitue la distraction principale d'un voyage en mer, et s'il se révèle dangereux pour nous...
Bref. Il avait raison. Bien des accidents peuvent se produire lors d'une traversée. Mais j'aurais préféré qu'il n'ait rien dit. Il reprit.
Est-ce toi qui as mis dans la tête d'Astérie de nous suivre? Elle l'a demandé. Elle a infligé à la reine un discours interminable sur la nécessité d'emmener un ménestrel qui rapporterait ensuite avec exactitude l'aventure du prince.
Non. Sa Majesté lui a-t-elle donné sa permission?
J'ai refusé, sous prétexte que toutes les places à bord du navire du prince étaient attribuées et que Niel en avait déjà obtenu une.
Pourquoi?
Pourrait-elle se révéler utile à ton avis?
Non. Comme pour ma dernière mission, je le crains, plus la vérité restera cachée, mieux cela vaudra. Je me sentais soulagé qu'Imbre eût rejeté la requête d'Astérie, mais, dans le même temps, une facette sournoise de moi-même en éprouvait une légère déception. Cette émotion m'inspirait trop de honte pour que je l'étudie de trop près. Le lendemain, je m'arrangeai pour voir Heur. Ma visite fut brève et il continua de travailler pendant que nous bavardions. Un compagnon réalisait un projet de marqueterie et avait confié à mon fils le ponçage des pièces. La corvée me paraissait mortellement ennuyeuse, mais Heur avait l'air absorbé dans son œuvre quand je m'approchais de lui. Il eut un sourire fatigué quand je le saluais, puis accepta gravement les petits cadeaux et les souvenirs que je lui apportais. Je lui demandais comment il allait, et il ne feignit pas de se méprendre sur la question. Svania et moi nous fréquentons toujours. Ses parents l'ignorent toujours, et je jongle toujours entre mes sorties et mes devoirs d'apprenti. Je crois que je ne m'en sors pas mal. En m'appliquant au travail, j'espère passer vite compagnon, et avec ce statut, je pense pouvoir me présenter au père de Svania comme un parti envisageable. Il poussa un soupir.
J'en ai assez de ces cachotteries, Tom. J'ai l'impression que Svania s'en régale, que cela ajoute du piment à nos rencontres, mais, pour ma part, j'aime les situations claires et nettes. Une fois compagnon, je pourrai régler la question. »
Un apprentissage dure des années, non des mois. Cependant, je ravalais cette réplique car il le savait aussi bien que moi. L'important était qu'il ne négligeait pas sa formation et au contraire, s'y lançait à corps perdu dans l'espoir d'exaucer son rêve. Que pouvais-je lui demander de plus? Je serrai mon fils dans mes bras en lui disant que je penserais souvent à lui. Il m'étreignit farouchement.
« Je ne te ferai pas honte, Tom, je te le promets. »
Avec les autres gardes, je chargeai mon coffre sur un chariot que je suivis jusqu'au quai. Bourg de Castelserre se parait pour la fête du printemps. Des guirlandes de fleurs décoraient le linteau des portes et des bannières flottaient au vent. Les tavernes et autres établissements publics étaient grands ouverts et il s'en échappait de la musique et l'odeur des plats des festivités. Quelques hommes ronchonnaient, mécontents de manquer les réjouissances, mais partir le premier jour du printemps plaçait le voyage sous des augures favorables. Le lendemain, nous escorterions en grande pompe le prince jusqu'à son navire. Pour le moment, nous nous contentâmes d'embarquer sur le Fortune de Vierge et de choisir nos emplacements, avec maintes bousculades amicales sur le pont inférieur alloué à notre compagnie. Il y faisait sombre, l'air n'y circulait pas, lourd de l'odeur forte des hommes confinés et de l'eau de cale. Après m'être cogné deux fois aux solives basses, je me déplaçais courbé en deux. Nous serions serrés comme harengs en caque, sans intimité, ni recoin où nous isoler. Des couples noirs de fumée émanaient comme un miasme oppressant. Et l'eau clapotait de façon sonore contre la coque, comme pour me rappeler que seule une planche de bois me séparait des profondeurs glacées. Je posai mon coffre dans le premier logement libre qui se présenta, pressé de ressortir. Peu m'importait où je le fixais, car j'avais déjà décidé de passer le plus de temps possible sur le pont, à l'air libre. La moitié des gardes avaient déjà participé à des voyages semblables et paraissaient se réjouir d'occuper une section du bateau différente de celle des matelots, qualifiés d'ivrognes, de voleurs et de bagarreurs. À mon avis, les intéressés devaient porter le même regard sur les gardes. Je rangeai rapidement mes affaires et remontai sur le pont, où je ne pus m'attarder car il grouillait de marins et de passagers, tous très occupés et que je gênais manifestement. Des palans soulevaient des caisses du quai, pivotaient et les redescendaient par les écoutilles dans les cales où on les arrimait. Quand ils n'échangeaient pas des injures, les hommes d'équipage vociféraient contre les terriens constamment dans leurs jambes. Comme je regagnais le plancher des vaches, je poussai un soupir de soulagement. Bien trop vite à mon goût, je me retrouverais prisonnier du bateau sans moyen de m'échapper. Mais, alors que je descendais la passerelle, mon sentiment de détente s'évapora. Sur le quai se trouvait le fou, dans son personnage de cire dorée, l'air furieux. Une nuée de serviteurs, les bras chargés de boîtes, de caisses, de sacs et de bagages de toutes sortes, se tenaient derrière lui. Devant, un parchemin à la main, un scribe aux abois barrait le passage et secouait la tête, les yeux à demi fermés, sous les diatribes de cire dorée.
« Eh bien, quelqu'un a commis une erreur, c'est l'évidence même. Ce qui paraît vous échapper, c'est que je n'en suis pas l'auteur. Il est entendu depuis des mois que je dois accompagner le prince dans sa quête. Qui peut mieux le conseiller qu'un homme comme moi, qui a voyagé loin et vécu dans d'innombrables cultures? Je vous prie donc de vous ôter de mon chemin. Je choisirai moi-même une cabine convenable, puisque vous prétendez qu'aucune ne m'a été attribuée, et je m'y installerai pendant que vous irez découvrir le responsable de cette bourde grossière. »
Le scribe n'avait pas cessé de secouer la tête, et quand il répondit, ce fut du ton de celui qui répète des mots déjà 100 fois prononcés.
« Sire Doré, il s'est produit une erreur, je le regrette humblement. Je tiens ma liste des mains même du seigneur Imbre, et mes instructions sont parfaitement explicites. Seules les personnes dont le nom figure sur ce parchemin doivent prendre quartier à bord du navire du prince. » Je n'ai pas le droit de quitter mon poste pour me renseigner sur une faute éventuelle. Mes ordres ne laissent pas place au doute là-dessus. »
Il ajouta comme s'il espérait se débarrasser ainsi de son persécuteur.
« Peut-être vous a-t-on inscrit sur un des bâtiments de suite ?»
Sire Doré poussa un soupir d'exaspération. Comme il se tournait vers son domestique, ses yeux parurent glisser sur moi sans me voir, mais, en réalité, nos regards se croisèrent un infime instant.
« Posez ceci.
dit-il d'un ton de commandement, et avec soulagement, l'homme se déchargea de la boîte qu'il portait. Le seigneur jamaïlien s'y assit aussitôt, puis, en croisant ses jambes gainées de choses vertes, il fit un signe impérieux aux autres serviteurs.
« Vous tous, posez vos affaires à vos pieds. »
« Mais, vous barrez le...
Je vous en prie, sire doré. »
Le fou ne manifesta aucune compassion pour la détresse du scribe.
« Je ne bougerai pas tant que la question ne sera pas réglée, »
annonça-t-il d'un ton de dignité outragée. Croisant les bras, le menton haut, il se mit à contempler la rade comme s'il n'avait pas d'autre souci au monde. Le scribe jeta un regard derrière l'aristocrate. Ses domestiques et ses bagages obstruaient efficacement le quai. D'autres passagers commençaient à former une foule qui grandissait derrière l'obstacle, et elle s'accroissait de débardeurs, poussant des brouettes ou les bras chargés de bailles de vivres. L'homme rassembla son courage et tenta de prendre une voix péremptoire.
« Monseigneur, vous devez vous écarter avec vos affaires en attendant que le problème soit résolu. »
« Il n'en est pas question. Je vous recommande donc d'envoyer un coursier chez Sire Imbre afin qu'il vous donne l'autorisation de me laisser monter à bord, car je ne me satisferai de rien d'autre. » L'accablement me saisit. Je savais que cette dernière phrase s'adressait à moi plus qu'au scribe. Il m'avait donc bien vu, et il pensait que je remonterais d'urgence au château pour glisser à Imbre un mot qui apporterait une prompte solution à sa situation. Il ne se doutait pas encore que j'étais responsable de ses difficultés et que, même si je les regrettais, Imbre resterait inébranlable. Comme je me détournais de l'agitation que provoquait son refus de bouger, il me lança un clin d'œil imperceptible. Il s'imaginait sans doute que le départ spectaculaire de Sire Doré demeurerait inscrit dans les légendes de Bourg de Castelserre. Je ne voulus pas en voir davantage. En gravissant d'un pas lourd les rues escarpées qui menaient au château, je songeais que je n'avais pas lieu de me tourmenter. Sire Doré finirait par se faire expulser du quai, voilà tout. De même, quand nous prendrions la mer sans lui le lendemain, il resterait à l'abri à Castelserre, pendant que nous affronterions l'inconfort et l'ennui du voyage. Il ne lui arriverait rien de plus grave. Pourtant, la journée me parut interminable. Après la hâte des préparatifs de dernière minute, ces dernières heures semblaient s'étirer, creuses, sans rien pour les occuper. Il ne restait plus dans mon placard au casernement que l'uniforme et l'arme que je porterais le lendemain. La garde princière aurait fière allure. Chausses, chemises et surtunique étaient bleues de serre, et l'animal emblématique des loin-voyants ornait notre poitrine. Mes nouvelles bottes, fabriquées à ma pointure, ne me serraient pas, et je les avais déjà graissées généreusement pour les rendre étanches. Malgré la saison, on nous avait fourni des manteaux de laine épaisse pour nous protéger du froid qui régnait dans les îles d'outre-mer. Posée sur cette tenue, l'épée que le fou m'avait offerte avait l'air d'un reproche muet. Je la laissais sur mes affaires, aussi à l'abri des voleurs que n'importe quoi d'autre dans une caserne où le bien le plus précieux d'un soldat est son honneur. Dans ma salle de travail de la tour, je retrouvais à peu près la même situation. Si Imbre avait remarqué que l'épée de chevalerie trônait à présent au-dessus de la cheminée, il n'en avait rien dit. Je déambulais sans but et rangeais au passage les objets que le vieil assassin avait délaissés en faisant ses bagages. Il avait déjà empaqueté les cartes des îles d'outre-mer et les documents qu'il jugeait nécessaires. Désœuvré, je finis par m'asseoir sur le lit pour jouer avec le furet. Mais Girofle se lassa bientôt et s'en alla chasser les rats. Je me rendis aux étuves, me frottais à m'en écorcher, puis me rasais deux fois. Ensuite, je retournais au casernement et me couchais dans mon lit étroit. Le silence régnait dans le long dortoir presque désert. Seuls quelques vétérans avaient décidé, comme moi, de dormir tôt. Les autres étaient descendus à Bourg de Castelserre pour faire leurs adieux aux tavernes et aux putains. Je remontais les couvertures sur moi et me perdis dans la contemplation du plafond obscur. Quelle opiniâtreté le fou mettrait-il à nous suivre ? Imbre m'avait assuré qu'il ne trouverait aucun bateau en partance de Castelserre. Il se verrait obligé de gagner un autre port par la route et de verser une somme considérable à un capitaine pour le persuader d'emprunter notre sillage. Or, Sire Doré ne possédait plus cet argent. Et, Après ces dernières frasques, plus aucun de ses amis ne lui consentirait de prêt. Il serait bloqué à terre. Et furieux contre moi, sans doute. Son esprit affûté déduirait bientôt à qui il devait cet abandon. Il comprendrait que j'avais décidé de le sauver malgré lui du destin qu'il s'était prédit, et il n'en éprouverait nulle reconnaissance. Son catalyseur avait pour rôle de l'aider à changer le cours du monde, non de contrarier ses efforts. Je fermai les yeux avec un soupir. Après plusieurs tentatives, je parvins à me concentrer, et quand je flottais enfin juste en dessous de la surface du sommeil, je me mis en quête d'Ortie. Cette fois, je la découvris assise dans les branches d'un chêne, vêtue d'une robe faite d'ailes de papillon. Je me trouvais au pied de l'arbre, sur une butte, et j'avais mon aspect habituel d'homme-loup.
« Tous ces papillons morts !»
fis-je tristement en la regardant avec reproche. « Ne dis pas de bêtises, ce n'est qu'un rêve !» Elle se leva et sauta de sa branche. Je me dressai sur mes pattes arrière et tendis les bras pour l'attraper. Mais les ailes irisées de sa robe se mirent tout à battre simultanément, et ainsi soutenue, légère comme un duvet de chardon, elle se posa près de moi. Un grand papillon jaune ornait sa chevelure comme une barrette. Il s'ouvrit lentement. La couleur de sa robe changeait par vagues au gré des battements paresseux des ailes. J'eus un petit frisson de répulsion.
« Ça ne te chatouille pas, toutes ces petites pattes ?»«
Non, c'est un rêve, je te le répète. On peut en éliminer les désagréments. »«
Tu ne fais jamais de cauchemars, alors ?»
demandai-je admiratif. Autrefois, si, je crois, quand j'étais toute petite, mais plus maintenant. Pourquoi rester là où on ne se plaît pas?
Tout le monde n'est pas capable de maîtriser ses rêves comme toi, mon enfant. Tu peux t'estimer privilégié.
Et toi, en fais-tu des cauchemars?
Quelquefois. As-tu oublié la dernière fois où tu m'as rejoint? Je franchissais un pierrier escarpé.
Ah oui, je m'en souviens. Mais je croyais que tu t'amusais. Et il y a des hommes qui aiment le danger, tu sais.
Peut-être. Mais certains, comme moi, en ont eu leur content et se dispenseraient volontiers de ces rêves-là.
Elle hocha lentement la tête. Ma mère souffre parfois de terribles cauchemars. Même lorsque je m'y introduis pour lui dire d'en sortir, elle ne réagit pas, elle ne veut pas ou ne peut pas me voir. Quant à mon père, je sais qu'il fait de mauvais rêves parce qu'il pousse des cris dans son sommeil. Mais je ne parviens pas à y accéder. Elle réfléchit un instant. C'est pour ça, je crois, qu'il a recommencé à boire. Ivre, il s'évanouit au lieu de s'endormir. Tente-t-il de se cacher ainsi de ses cauchemars, à ton avis ?
Je l'ignore,
répondis-je, en regrettant d'en apprendre autant.
J'apporte des nouvelles qui les tranquilliseront peut-être tous les deux. L'Est a repris le chemin de votre maison.
Elle joignit les mains et inspira longuement. Oh, merci, fantôme de loup. J'étais sûr que tu pourrais m'aider. Je m'efforçais de prendre un ton sévère.
Je n'y aurais pas été obligé si tu avais fait preuve de jugeote. L'Est est beaucoup trop jeune pour le livrer à lui-même. Tu n'aurais pas dû prêter la main à sa fuite.
Je le sais à présent, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Pourquoi la vraie vie ne se déroule-t-elle pas comme dans les rêves? Là, quand une situation tourne mal, il suffit de la modifier.
Elle leva les mains à hauteur de ses épaules, les passa sur le devant de sa robe et se retrouva vêtue de pétales de pavot.
Tu vois? Fini les petites pattes qui chatouillent. Tu n'as qu'à dire à ce que tu n'aimes pas de s'en aller.
Comme tu as, toi, chassé la femelle dragon.
La femelle dragon?
Tu sais bien, Tintaglia. Elle apparaît d'abord réduite sous la forme d'un lézard ou d'une abeille. Puis elle grandit jusqu'à ce que tu l'expulses.
Ah, elle ! Ortie plissa le front. Elle n'intervient qu'en ta présence. Je croyais qu'elle faisait partie de ton rêve.
Non, elle n'appartient pas au domaine imaginaire.
Elle est aussi réelle que toi et moi. »
J'éprouvais une soudaine inquiétude à constater qu'Orti ne l'avait pas perçue. Nos conversations oniriques l'avaient-elles exposée à un danger plus grand que je ne le pensais? Qui est-elle alors quand elle ne rêve pas?
Je te le répète, un dragon.
Mais ça n'existe pas!
Elle partit d'un grand éclat de rire qui me laissa à court de mots. Je retrouvai ma langue au bout d'un instant. Tu ne crois pas au dragon? Qui a sauvé les Siduchés des pirates rouges dans ce cas?
Nos soldats et nos bateaux de guerre, je suppose. Quelle importance, de toute façon, c'est de l'histoire ancienne?
Cela compte beaucoup pour certains d'entre nous, marmonnai-je, surtout ceux qui l'ont vécu.
Naturellement, pourtant j'ai remarqué que bien peu, si même ils s'en trouvent, sont capables de décrire précisément comment les Siduchés en ont réchappé. Ils ont vu les dragons au loin, puis, sans transition, les navires des pirates rouges en train de sombrer ou gravement endommagés, et les dragons qui disparaissaient à l'horizon.
Ces créatures produisent un étrange effet sur la mémoire, répondis-je. On dirait qu'ils absorbent les souvenirs en passant au-dessus des gens, comme un chiffon boit la bière renversée.
Orti me regarda, un sourire malicieux aux lèvres. Si c'est vrai, pourquoi Tintaglia n'exerce-t-elle pas la même influence sur nous? Comment se fait-il que nous nous rappelions l'avoir vue dans nos rêves?
Je l'arrêtai d'un geste. Ne prononçons plus son nom. Je n'ai aucune envie de l'affronter à nouveau. Quant à nos souvenirs d'elle, je pense que nous les gardons parce qu'elle se présente sous l'aspect d'une créature onirique et non de chair et de sang. Ou peut-être parce qu'elle est de chair et de sang, et non. Je me tus en me rappelant à qui je parlais. J'en révélais trop à Orti. Si je ne me surveillais pas, je ne tarderais pas à évoquer devant elle les dragons sculptés à l'aide de l'art dans la pierre de mémoire et leur identité avec les anciens des légendes et des ballades d'antan.
« Continue, » fit-elle d'un ton pressant. « Si Tintaglia n'est pas de chair, de quoi est-elle faite ? Et pourquoi nous interroge-t-elle toujours sur un dragon noir? Le prétendras-tu réel, lui aussi?
Je l'ignore, répondis-je, prudent. Je ne sais même pas s'il existe. Évitons ce sujet pour l'instant. J'éprouvais une angoisse diffuse depuis qu'elle avait prononcé le nom de Tintaglia. J'avais l'impression qu'il voltait autour de nous en chatoyant, aussi repérable que la fumée d'un feu de camp. Toutefois, si la croyance en la puissance évocatrice des noms renferme une parcelle de vérité, cet effet nous fut épargné cette nuit-là. Je pris congé d'Orti et, en quittant son rêve, je replongeai sans le vouloir dans mon vieux cauchemar. Aussitôt, les cailloux de la pente raide roulèrent sous mes pieds et me précipitèrent vers une mort certaine. J'entendis ma fille crier.
« Envole-toi, fantôme de loup! Change ton rêve !»
Mais je n'avais aucune idée de la manière de m'y prendre. Je me réveillai en sursaut, assis droit sur mon lit de camp, dans mon casernement. L'aube approchait et la plupart des lits étaient occupés. Il me restait cependant un peu de temps pour me reposer. Mais c'est en vain que je cherchais le sommeil, et je me levais plus tôt que d'habitude. Mes compagnons dormaient tous à poings fermés. J'enfilai mon uniforme neuf, puis passai quelque temps à convaincre sans résultat mes cheveux de ne pas tomber sur la figure. Je les avais coupés en signe de deuil à la mort d'Œil de Nuit, et ils n'avaient pas assez repoussé pour que je puisse les nouer en queue de guerrier. Je les liai en un toupet ridicule dont ils s'échapperaient bientôt, j'en étais sûr, pour revenir danser devant mes yeux. À la salle de garde, je mangeais de bon appétit le généreux petit déjeuner que les cuisines nous avaient préparé. Je savais que je ne goûterais plus de sitôt les plats de la terre ferme. Aussi me régalais-je copieusement de viande chaude, de pain frais et de gruau à la crème et au miel. À bord, les repas dépendraient du temps qu'il ferait et se composeraient d'aliments salés ou séchés et cuits sans apprêt. Si la mer s'agitait et que le coq juge trop risqué d'allumer un feu, nous mangerions froid, avec du pain sec pour tout accompagnement. Cette perspective ne m'emplissait pas d'allégresse. De retour au casernement, Je trouvai les gardes en train de se réveiller. Ils endossèrent leur tenue en se plaignant de devoir porter un épais manteau de laine par une journée de printemps ensoleillée. Imbre n'avait jamais voulu le reconnaître, mais j'étais certain qu'une demi-douzaine d'entre eux travaillaient pour lui comme espion. L'aura de vigilance discrète que je percevais autour d'eux me donnait à penser qu'ils avaient les yeux mieux ouverts qu'on ne pouvait le croire. Crible, jeune homme d'une vingtaine d'années, n'en faisait assurément pas partie. Aussi enthousiaste que j'étais désabusé, il se mira au moins 10 fois dans sa glace en portant une attention particulière à une moustache manifestement récente. Il insista pour me prêter de la pommade pour les cheveux, sous prétexte qu'il ne me permettrait pas de me présenter en un jour si important avec l'air d'un fermier hirsute. Vêtu pour la parade, assis sur son lit, il tapait impatiemment du pied et me débitait un flot de paroles incessants, qui allait de plaisanteries sur la poignée décorée de mon épée jusqu'à des questions pressantes sur la véracité de la rumeur selon laquelle on pouvait abattre un dragon d'une simple flèche dans l'œil. Son trop-plein d'énergie m'agaçait autant que celle d'un chien qui va et vient sans arrêt, et c'est avec soulagement que j'entendis Longue Mèche, notre nouveau capitaine, nous ordonner sèchement de sortir pour nous mettre en formation. Le départ n'en était pas imminent pour autant. L'ordre signifiait seulement que nous devions attendre dehors, dans l'alignement réglementaire. Un garde passe plus de temps à rester debout sans bouger qu'à s'entraîner ou combattre, et ce matin-là ne faisait pas exception à la règle. J'eus droit au compte-rendu détaillé des 3 aventures amoureuses de Est au cours de la nuit passée, auquel Crible apporta encore des précisions par des questions judicieuses. Quand nous nous mîmes enfin en route, ce fut pour nous rendre dans la cour devant les grandes portes, où nous nous déployâmes de part et d'autre du cheval du prince et de son harnacheur, et prîmes à nouveau patience. Des domestiques et des laquais, comme nous en grande tenue et en rang impeccable afin de manifester l'importance de leur maître, nous imitèrent, certains un cheval à la bride, d'autres un chien en laisse et d'autres encore les mains vides, tirés à 4 épingles, plantés dans la cour sous le soleil. Pour finir, le prince et son entourage apparurent. Lourd les suivait. Sada, la femme qui s'occupait de lui en semblables occasions, derrière lui. Devoir n'accorda pas un regard au soldat anonyme que j'étais aujourd'hui, et la procession se forma. La reine et sa garde se placèrent devant, tandis que le conseiller Imbre et son escorte nous emboîtaient le pas. J'aperçus Civil, en compagnie de son marguet qui bavardait avec Trame, tout en s'intégrant à la procession. Malgré les objections d'Imbre, notre souveraine avait annoncé que plusieurs de ses « amis du lignage » voyageraient avec le prince. Les courtisans avaient réagi de façon mélangée, les uns déclarant que l'on constaterait enfin si leur magie avait quelque utilité, les autres se réjouissant tout bas de voir Castelcerf débarrassé de ses sorciers des bêtes. À leur suite venaient les privilégiés qui accompagneraient le prince, d'une part pour tâcher d'entrer dans ses bonnes grâces, d'autre part afin d'étudier les possibilités d'échanges commerciaux avec les îles d'outre-mer. En queue de cortège se trouvaient ceux qui voulaient nous souhaiter bon vent avant de participer aux réjouissances de la fête du printemps. J'eus beau me tordre le cou en tous sens, je ne vis nul signe de cire dorée. Quand Devoir monta finalement en selle et que nous franchîmes les portes de la citadelle, on eût dit que tout Bourg de Castelcerf nous escortait. Je me réjouis de me situer en tête d'appareil, car après notre passage, la route ressemblerait à un bourbier où se mélangeraient fange et crottin. Nous arrivâmes au quai, mais nous n'embarquâmes pas aussitôt pour prendre le départ. C'eût été trop simple. Il fallut encore écouter des discours et assister à des remises de fleurs et de cadeaux de dernière minute. Je m'attendais à demi à découvrir Cire Dorée, ses bagages et ses domestiques toujours inexpugnablement installés près des navires. Mais ils avaient disparu, et je me demandais non sans inquiétude quel tour le fou préparait. Son ingéniosité lui avait-elle fourni le moyen de monter à bord? Je transpirais sous le soleil pendant que se déroulaient les dernières cérémonies, puis nous mîmes pied sur le navire pour former la haie d'honneur au prince qui se rendait à sa cabine. Là, il devait recevoir les visites d'adieu des nobles restants à terre, tandis que ceux qui voyageaient avec nous prenaient possession de leur quartier. Certains d'entre nous furent désignés pour monter la garde devant la porte du prince, et les autres, dont moi, furent envoyés dans leur cantonnement du bord afin de dégager le pont. Je passai la majeure partie de cet épouvantable après-midi assis sur mon coffre. Au-dessus de moi, les planches résonnaient d'incessantes allées et venues. Un chien surexcité aboyait sans s'arrêter. J'avais l'impression de me trouver enfermé dans un tonneau qu'on frappait continuellement. Un tonneau où régnait la pénombre et une odeur méphitique d'eau de cale, remplie à craquer d'hommes qui se croyaient obligés de hurler pour se faire entendre. Je m'efforçais de me distraire en me demandant où était passé le fou, mais cela ne fit qu'accroître ma sensation d'étouffement. Je posai le menton sur la poitrine, fermai les yeux et tâchai de m'isoler. En vain. Crible s'assit à côté de moi sur mon coffre.
Par les tétons d'Eda, qu'est-ce que ça pue ici? À ton avis, ce sera pire quand les mouvements du bateau touilleront dans l'eau de cale?
Sans doute. Je n'avais nulle envie d'y songer à l'avance. J'avais déjà voyagé par mer, mais je dormais alors sur le pont. Ou au moins, j'y avais accès. Aujourd'hui, dans un espace réduit et mal éclairé, le léger roulis du navire suffisait à me donner mal à la tête.
Ah !
Ses talons cognèrent contre mon coffre, et la vibration remonta le long de ma colonne vertébrale, jusque dans mon crâne.
Je n'ai jamais pris le bateau, et toi ?
Une fois ou deux, mais des navires plus petits, où j'avais de l'air et de la lumière, pas comme celui-ci.
Ah ! Et tu es déjà allé aux îles d'outre-mer ?
Non.
Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Tom.
Ouais. Trop d'alcool et pas assez de sommeil cette nuit. C'était un mensonge, mais il se révéla efficace. Avec un sourire complice, Crible me donna une bourrade amicale. Je lui montrai les dents et il me laissa seul. L'agitation et le bruit me cernaient de toutes parts. J'étais malheureux, j'avais peur, et je n'aurais pas dû manger tant de pâtisseries au petit déjeuner. Personne ne s'occupait de moi. Mon col m'étranglait, mais Sada avait déjà quitté le bateau, alors elle ne pouvait pas le desserrer.
Lourd,
fis-je dans un souffle. J'avais identifié la source de mon angoisse. Je me redressai, inspirai profondément l'air vicié, m'efforçai de contenir un haut-le-cœur, puis tendis mon esprit.
Hé, petit homme, ça va ?
Non.
Où es-tu ?
Dans une petite chambre. Il y a une fenêtre toute ronde et le plancher remue.
Tu as de la chance. Moi, je n'ai pas de fenêtre du tout.
Le plancher remue.
Je sais. Mais tout se passera bien. Bientôt, les visiteurs redescendront sur le quai.
Les matelots largueront les amarres et nous partirons pour l'aventure. On va bien s'amuser.
Non. Je veux rentrer à la maison.
Ça ira mieux une fois en mer, tu verras.
Non. Le plancher remue, et Sada a dit que j'aurais le mal de mer.
Je regrettais que nul n'ait songé à la prévenir de présenter le voyage sous un jour favorable.
Sada nous accompagne alors? Se trouve-t-elle à bord?
Non, rien que moi tout seul, parce qu'elle attrape très mal au cœur en bateau. Elle me plaignait beaucoup de partir. Elle disait qu'un jour en bateau, c'était comme une année pour elle, qu'on n'a rien à faire pour s'occuper et qu'on passe son temps à vomir.
Lourd avait hélas raison. L'après-midi touchait à sa fin quand les hôtes venus souhaiter bonne traversée aux passagers quittèrent le bord. Je pus alors monter sur le pont, mais peu de temps, car le commandant, maudissant les gardes, nous ordonna de redescendre pour permettre à l'équipage de manœuvrer sans gêne. J'avais pu jeter un coup d'œil à la foule massée sur le quai, et je n'y avais pas repéré le fou. J'avais craint de croiser son regard accusateur, mais je m'inquiétais à présent bien davantage de ne pas le voir. On nous avait ensuite refoulés, mes camarades et moi, dans notre cale dont on avait clos les panneaux, nous privant du peu de lumière et d'air frais dont nous jouissions jusque-là. Je m'assis à nouveau sur mon coffre. L'odeur résineuse des membres goudronnés du navire devint plus forte. Au-dessus de nous, le commandant donna l'ordre que les canots nous halent à l'écart du quai, et les bruits changèrent quand nous nous déplaçâmes sur l'eau.
Le capitaine du navire cria des instructions inintelligibles et j'entendis le choc sourd des pieds nus des marins qui se précipitaient pour obéir. On rappela les canots et on les hissa à bord. Le bâtiment piqua du nez, puis le rythme de ses mouvements se modifia de nouveau. Je supposais que les voiles avaient pris le vent. Et voilà, nous étions enfin partis. Quelqu'un s'émut de notre sort et ouvrit le panneau de cale, mais si peu que cela évoqua davantage une moquerie qu'un geste de réconfort. Je regardai fixement l'étroite bande de jour. « Je m'ennuie déjà, » me confia Crible. Il se tenait à côté de moi et de la pointe de son poignard gravait je ne sais quoi dans le bois de la coque. J'émis un grognement en guise de réponse. Il poursuivit son œuvre.
« Eh bien, Tom, nous voici en route. Comment cela se passe-t-il sous le pont ?»
Le prince paraissait d'excellente humeur, état d'esprit somme toute assez normal chez un garçon de 15 ans qui s'en va au loin tuer un dragon pour obtenir la main d'une Narcheska. Je sentis la présence d'Imbre en arrière-plan, et je l'imaginai à table, près du prince, les doigts de devoir posés sur le dos de sa main. Je poussai un soupir. Il nous restait beaucoup de pain sur la planche avant que notre clandard fonctionne correctement. J'en ai déjà assez, et l'Our me paraît complètement perdu.
Ah, j'espérais bien que tu apprécierais de te dégourdir les jambes. Je vais envoyer quelqu'un parler à ton capitaine. L'Our se trouve à l'arrière, et il aurait bien besoin de compagnie. Rejoins-le.
Imbre s'adressait à moi par le biais du prince.
A-t-il déjà le mal de mer ?
Pas encore, mais il s'est convaincu qu'il l'aura. Je songeais avec aigreur que cette mission aurait au moins pour avantage de m'amener à l'air libre. Peu après, le capitaine Longuemèche m'appela. Je me présentai à lui et il m'informa que le serviteur du prince, lourd, indisposé, m'attendait sur le gaillard d'arrière. En entendant l'ordre qui m'était donné, mes voisins raillèrent sans méchanceté ma promotion au poste de garde simple d'esprit. Avec un sourire narquois, je rétorquai que je préférais 1000 fois surveiller un seul idiot sur le pont qu'en côtoyer toute une bande à fond de cale. Là-dessus, je grimpai l'échelle et accédai à l'air pur. Je rejoignis l'Our sur la dunette. Agrippé à la lisse, le regard tourné vers Castelserre, il avait l'air accablé. La citadelle noire au sommet de la falaise s'éloignait. Civil se tenait près du petit homme, son marguet à ses pieds, et ni l'un ni l'autre ne paraissait ravi de se trouver là. L'Our se pencha par-dessus le bastingage, pris de haut de cœur bruyant, et l'animal coucha ses oreilles.
« Voici Tom Blaireau, l'Our. Ça ira maintenant. »
Civil m'adressa un bref hochement de tête d'aristocrate à simple soldat, et comme toujours, il me dévisagea d'un œil pénétrant. Il savait mon apparence trompeuse. Je l'avais sauvé des pies qui s'apprêtaient à l'assassiner à Bourg de Castelserre, et il ne pouvait manquer de s'interroger. Qui étais-je pour apparaître à point nommé et l'arracher à une mort certaine? De mon côté, je me demandais ce que l'Audevin lui avait appris sur Sire Doré et moi. Nous n'en avions jamais parlé, et je n'avais pas l'intention de commencer ce jour-là. Je lui retournai un regard impénétrable et m'inclinai respectueusement. « Je viens accomplir mon devoir, messire. » Je m'exprimai d'un ton à la fois neutre et déférent.
« Je me réjouis de vous voir. Eh bien, au revoir, l'Our. Tu es en de bonnes mains à présent. Je redescends dans ma cabine. Tu te sentiras mieux bientôt, j'en suis sûr. »
« Je vais mourir, »
répondit l'Our d'une voix sépulcrale.
« Je vais vomir tous mes boyaux et je vais mourir. »
Civil me lança un regard compatissant. Je feignis de ne rien voir et me postai le long du bastingage près du simple d'esprit. Il se pencha de nouveau par-dessus la lisse avec force bruit de régurgitation et je le retins par le dos de sa veste. « Ah, la mer et ses merveilleuses aventures !»